Bonjour et bienvenue sur le podcast Un projet, un architecte. Je suis François Cervérat, architecte et fondateur du site Un projet, un architecte. Si vous aimez l'architecture et avez envie de découvrir les secrets qui se cachent derrière la conception d'un bâtiment, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque mois, j'échange avec un architecte afin de vous faire découvrir un de ses projets phares. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Vivien, fondateur de l'agence d'architecture Atelier Ose, basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée et à Paris. Il nous parlera de son agence et de son remarquable projet de surélévation Maison FV. J'adore ce projet de surélévation car il est réalisé avec intelligence, économie de moyens et précision. Il utilise avec finesse, originalité et modernité un matériau qui nécessite un grand savoir-faire de mise en œuvre, le zinc. Le cahier des charges initial était une simple rénovation énergétique. La relation de confiance qui s'est établie entre Théo et son maître d'ouvrage a permis d'enrichir le projet et de développer une surélévation qui redonne une seconde vie à la maison originale. Si vous voulez découvrir le projet en images et d'autres réalisations de Théo, vous pouvez vous connecter sur sa page de profil sur le site www.unprojetunarchitecte.com. Le lien figurera dans la description du podcast. Maintenant, je laisse la parole à Théo qui nous expliquera plus précisément les subtilités de ce magnifique projet Maison FV. Bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue Théo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast Un projet, un architecte pour que tu nous présentes ton agence Atelier Ose et plus précisément le projet Maison FV à La Roche-sur-Yon qui est, je crois, ta ville d'origine.
Bonjour François, eh bien enchanté. Merci de me recevoir. Et oui, tout à fait. Je vais vous présenter ce projet Maison FV dans la ville de La Roche-sur-Yon.
Dans un premier temps, nous allons parler de ton agence Atelier Ose. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi ce nom et qu'est-ce qu'il veut dire ?
Oui, tout à fait. Donc, Atelier Ose, l'objectif principal, un petit peu le leitmotiv de mon agence, c'est de proposer une architecture qui soit abordable et qui soit destinée à tout le monde, donc une architecture abordable pour tous. Et l'idée, c'est vraiment de dire que l'architecture n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes ou à une élite, certaines personnes qui auraient plus les moyens que d'autres. L'idée, c'est de dire non, l'architecture, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les budgets, c'est pour toutes les surfaces. Et c'est là où peut-être un architecte peut apporter un vrai plus, là où il excelle, parce que on a vraiment l'habitude, nous, de travailler dans des milieux qui sont très contraints. Donc, que ce soit en termes de situation, un terrain qui soit complexe, des surfaces réduites, des budgets serrés, le travail dans la contrainte, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc voilà, l'ambition, c'est un peu d'ouvrir à tout le monde. Ça a été vraiment un moteur pour moi pour créer cette agence, cette volonté de retrouver un petit peu une idée de service public, d'intérêt public et de travailler vraiment avec tout type de personnes sur tous les budgets. Donc en première lecture, Atelier Ose, moi je voulais quelque chose qui soit très net, vraiment simple, efficace, sobre, qui soit à l'image de mon travail. Donc voilà, l'idée, c'est de dire oser l'architecture abordable, osons cela ensemble et travaillons ensemble. Et après, en deuxième lecture, il y a une seconde lecture. Ose, c'est aussi des initiales, c'est aussi un objectif de sobriété économique. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de proposer une architecture sobre dans une économie de moyens et d'aller à l'essentiel. Et juste dernière petite chose aussi, c'est de dire que c'est une agence, mais j'aime aussi utiliser le terme atelier auquel je suis assez attaché parce que il reflète vraiment une notion de travail à la main, de conception artisanale et de faire les projets vraiment au cas par cas adaptés à chacun.
Peux-tu nous dire quand est-ce que tu as créé ton agence ?
Alors, la structure telle qu'elle existe aujourd'hui sous sa forme actuelle, c'est assez récent. J'ai adopté un nouveau statut récemment pour justement pouvoir grandir, prendre un petit peu de l'ampleur et accéder à de nouveaux types de projets. Donc, officiellement, la structure Atelier Ose, elle existe depuis février 2021, donc ce qui est assez récent. Mais en fait, en réalité, c'est beaucoup plus ancien que cela. Moi, je travaille depuis environ 2017-2018 sur des projets. Donc, j'ai travaillé d'abord dans quelques grandes agences à Nantes et à Paris pendant plus de 5 ans. De là, je me suis forgé une expérience assez solide sur des projets d'envergure, avec des programmes très variés. Il y avait du bureau, de l'équipement, comme des groupes scolaires, des collèges, des gymnases. Donc voilà, ça a été une expérience assez formatrice, mais voilà, on était sur la grande échelle de l'envergure, et puis à un moment, je me suis dit, j'ai envie et j'ai besoin de retrouver un petit peu une échelle plus individuelle, plus intimiste, avec moins d'intermédiaires, notamment sur le chantier, et d'être un petit peu plus en lien avec l'utilisateur final. Donc, c'est de là un peu que m'est venue l'idée de me lancer, après avoir travaillé pour cette agence. Donc voilà, comme beaucoup, j'ai commencé avec des projets pour de la famille, pour des proches, et puis peu à peu, les choses ont évolué jusqu'à arriver à la structure telle qu'elle existe aujourd'hui, et voilà, et à travailler pour des clients encore plutôt individuels. Et cette structure, d'ailleurs, elle est vraiment née du constat de départ qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire rendre l'architecture accessible. Et l'idée, c'était pas de créer une énième agence, de dire je crée mon agence pour créer mon agence, mais c'était vraiment une proposition et un défi que je me suis lancé en me disant voilà, je fais un constat que il y a cette idée reçue un petit peu comme quoi l'architecture n'est pas si abordable. Je me lance le défi d'essayer de prouver le contraire et de dire allons-y, faisons des projets pour tous.
Où est localisée ton agence et pourrais-tu nous parler de ton ancrage territorial?
Alors, donc elle est située à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Moi, je suis Vendéen d'origine, c'est là que j'ai mes racines. Je connais très bien le tissu local, j'y ai vécu toute mon enfance, j'ai mes ancrages familiaux. Donc voilà, on est sur une ville moyenne d'environ 60 000 habitants à La Roche-sur-Yon, on pourra en reparler. Et en fait, l'une des problématiques de ces villes-là par rapport à d'autres grandes métropoles comme Nantes, Paris, qui ont tendance à absorber vraiment beaucoup, c'est que c'est des villes qui sont sans cesse en recherche d'attractivité. Et bon, voilà, c'est valable pour les médecins. Il y a des déserts médicaux dans les petits villages et de plus en plus dans des villes moyennes comme La Roche-sur-Yon. Et c'est la même chose pour les architectes. On a des désertifications de ces territoires. Et ce sont des zones qui sont assez peu denses en termes d'architectes. Donc moi, au moment de fonder mon agence, la question a vite été résolue et je me suis dit, ben voilà, c'est à La Roche-sur-Yon que j'ai envie de m'implanter parce que j'ai envie d'apporter mon savoir-faire, d'y implanter une nouvelle dynamique. Et voilà, bon, aussi, effectivement, la plupart des opportunités de projet que j'ai eues au début étaient situées là-bas. Mais c'était aussi une véritable volonté. Et il faut savoir que la Vendée, c'est un territoire très riche en termes de bassins d'activité. Il y a des entreprises qui sont très pertinentes et très pointues dans ce qu'elles font, que ce soit en construction ou dans les autres domaines. Donc, il y a beaucoup à faire en Vendée.
Pourrais-tu nous parler des types de projets que tu réalises et ceux que tu affectionnes le plus?
Alors, pour l'instant, on est principalement sur de la commande privée, comme je le disais au début, plutôt de l'échelle individuelle que je souhaitais retrouver. Donc aujourd'hui, ça va par exemple d'un projet d'extension d'une maison ancienne dans le sud de la Vendée à une construction d'une maison de vacances à l'île d'Oléron. Donc voilà, les sujets sont assez variés. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des sujets variés, polyvalents, pour vraiment s'attaquer à tout type de commandes. Donc sur l'individuel, aujourd'hui, on est plutôt sur de la construction neuve, de l'extension, de la surélévation, de la rénovation énergétique. Mais le but, après, à terme, petit à petit, c'est de s'ouvrir voilà, à d'autres commandes, de la commande publique, du projet un petit peu plus important. Voilà, moi, l'idée, c'est vraiment de rester polyvalent parce que c'est le cœur de notre métier, quoi. Après, oui, tu me disais les projets que j'affectionne le plus.
Oui.
Bon, il n'y a pas vraiment un projet en particulier. Moi, tous les sujets m'intéressent. Ce que j'aime surtout, c'est quand on construit une relation de confiance avec la maîtrise d'ouvrage, le client, et que le projet se développe. Donc, ça peut être une construction neuve où on part là vraiment d'une page blanche Et on a tout à inventer, donc on est vraiment à l'écoute des ambitions, des désirs, de tout ce que souhaite le client. Mais la réhabilitation, c'est aussi des sujets qui ont tout leur intérêt parce qu'on part d'un existant, d'un déjà là, et il faut composer avec. Et il y a vraiment des enjeux de dessin, d'adaptation qui sont des défis aussi intéressants.
Pourrais-tu nous parler de tes méthodes de travail d'un point de vue conceptuel? Est-ce que tu travailles plutôt en maquette, en 3D, en croquis?
Alors, on peut parler en termes de technique après sur comment je fais, mais dans un premier temps, je peux te parler de mon approche vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage. Moi, ma méthode, c'est vraiment basée sur le dialogue. Voilà, on commence toujours par une série de réunions où on essaye de bien comprendre, de cerner tous les besoins, les attentes de la maîtrise d'ouvrage. D'ailleurs, c'est assez unique comme position parce que on rentre un petit peu dans leur vie d'une certaine manière, dans une certaine forme d'intimité. On va être amené à connaître la façon dont se déroule leur journée, leurs habitudes au quotidien. Ça va permettre d'avoir une conception vraiment au plus proche de leur façon d'être et de concevoir quelque chose qui est vraiment vraiment à leur image, quoi. Donc moi, je cherche toujours au maximum ce dialogue dès le début, faire réagir. J'utilise beaucoup la technique de la référence, donc je m'appuie sur des images d'autres projets existants en montrant voilà différentes directions qui pourraient leur correspondre en fonction du projet, dans des styles un petit peu différents. Et par rapport à ça, ils réagissent, ils me disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Et ça crée vraiment une base de discussion qui permet encore mieux de cerner les goûts et ensuite de créer quelque chose au plus proche, quoi. Donc, ensuite, il y a toute cette phase de dialogue, on écoute, on absorbe beaucoup les informations et à partir de là, des mots, parfois de petits croquis qui sont faits par le client, tout l'enjeu et tout notre métier, en fait, c'est simplement de traduire tout ça en espace, en forme, en matière et créer un projet ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet, il se nourrit aussi de ce que nous dit le maître d'ouvrage. Il est nourri par toutes les informations qu'il nous apporte et il est vraiment co-créé ensemble, quoi.
Oui, d'accord. Donc, c'est beaucoup de dialogue avec le maître d'ouvrage.
Beaucoup de dialogue, oui. Beaucoup de dialogue. Donc, ça, c'est sur la partie réunion et échange avec la maîtrise d'ouvrage. Après, sur la conception elle-même, en termes de méthodologie, moi, je prends beaucoup de soin à dessiner vraiment dans le détail, à aller très loin dans le détail. Les dossiers de consultation des entreprises, donc qu'on appelle les DCE, qui est le dossier final qu'on va donner à l'entreprise pour qu'elle puisse construire. Là, c'est un dossier sur lequel moi, je porte vraiment beaucoup d'attention. Je dessine beaucoup de détails avec beaucoup de précision parce que pour moi, c'est vraiment la clé pour un chantier réussi par la suite. C'est-à-dire que ce dossier-là, il va donner toutes les clés à l'entreprise et il va leur permettre de bien savoir quoi faire exactement. Alors, j'en fais beaucoup. Parfois, certaines entreprises ont l'impression que ça fait des carnets énormes et ils n'ont pas l'habitude d'en voir autant. Des fois, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, malheureusement. Mais après, ils lisent bien, on échange, pareil, et cette base solide, elle permet d'avoir un chantier qui est fiable et proche de ce qu'on avait souhaité vraiment à la base. Donc vraiment, c'est une attention sur ce dossier. Et puis après, pendant le chantier, vraiment garder une attention permanente et être toujours dans l'échange avec l'entreprise pour qu'elle ait bien compris l'enjeu, tous les enjeux du projet, quoi.
Oui, d'accord. Donc, ça doit vraiment faciliter le chantier si les détails sont bien dessinés.
Évidemment. Évidemment. Et puis, je reste toujours, moi, dans une position d'écoute à dire aux entreprises, n'hésitez pas à venir me poser des questions si c'est pas clair, à échanger et vraiment créer ce moment-là. Et d'ailleurs, le moment du chantier, c'est vraiment un moment crucial du projet. Moi, c'est un moment qui me passionne. Je pourrais t'en parler des heures. Mais, parce que j'ai beaucoup, voilà, dans mes études, j'ai beaucoup étudié ce sujet-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que d'un dessin à la main, on passe vraiment à une réalité construite, à des matières qui sont réelles, palpables, et voir le projet naître sous ses yeux, ça a quelque chose d'assez magique, mais c'est aussi un travail qui se fait au quotidien et au jour le jour, quoi. Donc ça, c'est ouais, sur le chantier. Et puis après, donc techniquement, moi, je travaille beaucoup en 3D en termes de conception. Donc, avec un logiciel de type BIM, pour ceux qui connaîtront. Voilà, c'est un logiciel qui est vraiment tout en un et qui permet de concevoir à la fois en plan, en élévation. Donc, on soit vraiment en trois dimensions. Quand auparavant, on était plus sur une table à dessin et on dessinait séparément différents éléments, là, cette conception tout en un, elle a beaucoup d'avantages. C'est que déjà, en conception, on gagne beaucoup de temps et on peut montrer au client de manière beaucoup plus intuitive des vues en 3D qui parlent beaucoup plus souvent que des plans ou des élévations. Donc, tout de suite, on peut faire rentrer la maîtrise d'ouvrage dans son projet en lui proposant des vues en 3D. Alors après, évidemment, j'utilise aussi le croquis, le schéma dans les phases préparatoires, mais j'utilise vraiment beaucoup l'outil 3D en général.
Oui, d'accord. Donc, ça doit permettre aux clients qui pas forcément l'expérience pour pouvoir lire des plans d'architecture, de s'immerger dans le projet et de bien s'imaginer le résultat final.
C'est ça. Et parfois même, quand le projet s'y prête ou quand il y en a réellement besoin, en plus des vues 3D, je propose des vidéos où on peut se promener à l'intérieur du projet. Et là, du coup, l'immersion, elle est encore plus totale parce qu'on peut vraiment visiter le projet en direct, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton organisation de travail? As-tu une journée type ou chaque jour est très différent l'un de l'autre?
Alors non, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est vraiment différent en fonction des projets qu'il y a sur le moment auxquels je suis amené à travailler, des phases de l'avancement. Donc souvent, il y a un petit peu tout qui se mélange parce que les projets sont à des phases différentes. Mais voilà, globalement, on peut dire qu'il y a une bonne partie qui est passée sur la conception. Sur le travail des études qui dure vraiment plusieurs mois. Donc là, on est devant son ordinateur à dessiner dans le détail et à alimenter le projet. Il y a une partie, comme on en parlait tout à l'heure, de rencontres, d'échanges avec les maîtrises d'ouvrage. Donc ça, c'est un temps assez important aussi, se déplacer chez eux, toute cette démarche d'échange qu'on a évoqué tout à l'heure, de comprendre vraiment leurs attentes et leurs besoins. Il y a une part aussi un petit peu de gestion d'agence, d'administratif, gestion des factures, des honoraires, de la vie courante de l'agence, on va dire, qui aussi prend quand même du temps. Et on aimerait parfois passer plus de temps en conception, mais il faut passer par là. Et évidemment, il y a aussi le moment du chantier, donc comme on en parlait, qui est un moment où c'est très important d'être présent, d'être là, d'être disponible, pour que le chantier se passe au mieux et qu'il garde le cap au maximum, quoi. Donc, c'est un mélange un petit peu de tout ça. Donc, on s'ennuie rarement. C'est assez polyvalent.
Tu nous en as déjà parlé un petit peu au début, avec le nom de ton agence. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de la philosophie de ton agence et de ton architecture? Quelles sont les thématiques que l'on retrouve dans tes projets?
Ouais, bien sûr. Alors oui, on en a parlé un petit peu au début, cette idée de rendre l'architecture abordable, de la communiquer un petit peu à tous, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans notre métier, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas toujours très bien à faire, c'est-à-dire de communiquer nos projets, d'utiliser un vocabulaire qui parle à tout le monde. Parfois, on s'enferme un petit peu dans des langages techniques, on n'est pas très direct. Donc, mon idée, c'est vraiment de démocratiser ça au maximum. Et par exemple, des architectes comme Rudy Ricciotti, c'est des architectes que j'admire beaucoup parce qu'ils ont une façon de parler qui est très directe, sans filtre,
ouais.
qui parle aux architectes et au grand public à la fois. Alors, il fait débat au sein de la profession d'architecte, chez tout le monde, parce qu'il est très direct. Mais ce que j'admire chez lui, c'est ce franc-parler. Et d'ailleurs, l'architecture est un sport de combat. C'est un bouquin que je recommande à lire parce que il est vraiment vrai et il parle à tout le monde. Donc, mon idée, c'est vraiment ça, de parler à tous et de démocratiser ce métier. Et après, l'agence, elle se fonde sur trois grands piliers qui sont créer une architecture qui est sobre, durable et territoriale. Donc ça, je peux te le développer un petit peu plus en détail. L'idée d'une architecture sobre, c'est vraiment une architecture qui va à l'essentiel. L'économie de moyens, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose auquel je m'attache vraiment. L'idée, c'est vraiment de faire beaucoup avec peu. en fait. C'est-à-dire utiliser les moyens qu'on a pour mettre l'argent au bon endroit, pour mettre les matériaux aux bons endroits et pour créer un projet qui soit le plus pertinent possible. Donc, par exemple, c'est aussi la démarche de Philippe Madec avec la frugalité heureuse qui propose d'aller dans cette démarche. Et je trouve que c'est un sujet assez contemporain duquel il faut s'emparer, d'essayer de faire beaucoup avec peu. Voilà. Ensuite, on a l'aspect qui est l'aspect durable, donc qui est un autre des piliers de l'agence, qui est de dire si on fait beaucoup avec les éléments qu'on a, l'idée c'est vraiment de bien choisir les matériaux, ce avec quoi on fait pour vraiment donner du sens. Et voilà, là c'est vraiment d'utiliser des matériaux qui soient pérennes, qui soient locaux, qui soient adaptés à l'environnement. Donc évidemment, je vais pas construire de la même manière quand je construis un projet à l'île d'Oléron ou dans une ville et un contexte plus dense comme à La Roche-sur-Yon. Voilà, donc on va vraiment s'adapter au maximum avec les moyens locaux, avec les matériaux locaux et voilà, et bien choisir son orientation, utiliser des procédés au plus naturels pour éviter d'avoir des systèmes trop complexes et des usines à gaz un peu avec trop de climatisation, de pompes à chaleur. L'idée, c'est de concevoir avec du bon sens dès le début. Donc, c'est un peu la mouvance du low-tech. Et enfin, le dernier pilier, c'est d'avoir une architecture qui soit vraiment territoriale, c'est-à-dire ancrée dans son paysage, que ce soit le paysage proche et lointain. Donc, c'est un travail de recherche sur le contexte, quels sont les matériaux locaux, s'imprégner du lieu, s'imprégner des savoir-faire qui sont existants pour vraiment créer un projet qui soit dans son contexte et qui soit à sa place, voilà, vraiment.
Oui, d'accord, c'est très intéressant. Donc, on a bien compris l'idée de la frugalité, hein, que tu cherches à faire un travail architectural simple et efficace. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler de tes influences architecturales, mais aussi tes influences non architecturales, les choses qui t'inspirent dans ton territoire, dans le paysage autour de toi ou dans la ville dans laquelle tu habites?
Oui, bien sûr. On peut parler effectivement de ces inspirations. En fait, bizarrement, quand on a un œil d'architecte, on a toujours un œil un petit peu biaisé, on va dire, parce qu'on voit le monde sous un certain prisme, avec certaines lunettes qui peuvent être différentes d'autres personnes. On regarde beaucoup sous le terme de comment sont composés les espaces, la lumière, les formes. Et donc, adopter ce regard particulier, il nous permet de trouver l'inspiration absolument partout, en fait. Et voilà, c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais c'est la réalité, c'est que en adoptant ce certain regard, en se posant dans la ville, et ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, hein, que j'invite tout le monde à pouvoir faire, c'est juste se poser dans la ville, regarder les choses, être un petit peu dans la contemplation, et après en regardant du global jusqu'au détail, on peut découvrir des choses, on peut découvrir des surprises qu'on observe et qui peuvent ensuite nourrir notre travail. Donc à partir de là, vraiment, tout est possible et on peut trouver l'inspiration sur deux feuilles d'arbres dans un chemin, des traces de pas dans la neige, même une œuvre d'art, la composition d'une œuvre au musée. Il n'y a vraiment pas de limite et c'est infini. Et c'est ça qui est assez rigolo.
Ok, écoute Théo, merci beaucoup pour cette présentation de ton atelier. Je crois qu'on commence à avoir une vision globale de la façon dont tu travailles. Maintenant, j'aimerais que tu nous présentes ton magnifique projet de surélévation, la maison FV à La Roche-sur-Yon. Dans un premier temps, peux-tu nous parler du cahier des charges initial, le programme, les surfaces, peut-être le budget également, et comment es-tu rentré en contact avec le maître d'ouvrage ?
Alors, oui, avec plaisir. Mais peut-être avant de parler du programme, moi, il me semblait important de placer un petit peu le projet dans son contexte, dans son cycle. On est dans un contexte qui est quand même plutôt urbain, à La Roche-sur-Yon, donc qui est une ville de taille moyenne, on en a un peu parlé. On n'est pas en centre-ville, pas très loin non plus. C'est un quartier qui reste très pavillonnaire, où globalement, toutes les maisons sont du même type, se ressemblent. C'est des maisons de type pavillon, donc tout ce qu'il y a de plus classique, on en trouve partout dans le paysage français, dans nos villes. Donc, on est sur de l'enduit blanc, de la tuile rouge, vraiment quelque chose de classique, quoi. Donc, c'est une maison qui date des années 50, de 1954, il me semble. Et donc, les propriétaires, ils vivent dans cette maison depuis plus de 20 ans et ils font d'abord appel à moi pour un projet de rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'ils veulent améliorer les performances thermiques de cette maison en réisolant tout l'étage, la partie haute et la toiture qui était un petit peu ancienne. Donc, il faut savoir qu'ils avaient acquis cette maison en 1998, je crois. À l'époque, ils avaient fait quelques travaux assez importants en remaniant complètement l'agencement du rez-de-chaussée. Et ils en avaient profité pour réisoler la partie basse au rez-de-chaussée, mais ça n'avait pas été fait au niveau de l'étage et de la partie haute. Donc, l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur ces parties-là, partie haute et toiture. Ils avaient également entendu parler des aides d'État pour ce genre de travaux, donc qui est aujourd'hui MaPrimeRénov. Donc, ça les a encouragés un petit peu à sauter le pas. Alors après, bon, quand on regarde la facture finale, il faut pas se faire d'illusions non plus, hein. Ces aides d'État, c'est vraiment un coup de pouce. C'est pas un montant extraordinaire, mais c'est déjà ça. C'est un petit plus qui peut aider dans le projet. Donc, l'idée initiale, vraiment, c'était de faire un bardage. Et puis, ils avaient quand même cette idée de me dire on a un grenier depuis de nombreuses années et on souhaite peut-être en faire quelque chose. Mais à cette époque, ça en était resté là. Donc, sur le cahier des charges initiales, c'était un petit peu ça. Et tu me demandais aussi sur la prise de contact.
Oui, aussi.
Alors, la prise de contact, c'était assez simple, hein, parce que finalement, c'était des proches que je connaissais déjà. C'était dans mes premiers projets. Donc, le contact, il était déjà établi.
C'est un plus, mais ça peut aussi être une difficulté supplémentaire.
Ça peut. Mais ça ne l'a pas été dans ce cas.
Ça ne l'a pas été, ok. Et en combien de temps le programme de rénovation énergétique initiale s'est transformé en une surélévation ?
Alors, ça s'est fait très rapidement, finalement. Et effectivement, donc, comme on le disait tout à l'heure, on était d'abord parti sur une rénovation énergétique assez classique. Les propriétaires, ils étaient quand même à la recherche d'un style assez contemporain. Le fait de changer complètement l'aspect de la maison, ça ne les dérangeait pas, au contraire. Ils étaient là depuis plus de 20 ans. Et puis, cette idée de déménager sans changer de maison, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Donc, ils étaient assez ouverts à ça. Et donc, chemin faisant, au fil des échanges et des réunions, mais c'était vraiment dans les premières réunions, ils m'ont évoqué cette pièce en plus qu'ils avaient toujours souhaité, de ce grenier qu'ils voulaient développer. Et donc, en dialoguant avec eux, donc comme on en parlait tout à l'heure, en créant l'échange, en discutant sur quelques réunions, on a vraiment établi un vrai dialogue et le projet a vraiment pris une autre ampleur. Et en plus d'une rénovation énergétique, on a décidé de faire une surélévation, de surélever toute la partie nord du projet pour faire cette fameuse pièce en plus. Mais au final, ça s'est fait quand même assez rapidement dans l'évolution. Au bout de deux ou trois réunions, on partait sur cette idée et on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups, on va rénover la façade extérieure et en plus, on va créer un nouvel espace donc qui va servir aux propriétaires de salles de sport, de salles multimédia d'un côté et qui va être séparé et aussi permettre de créer un petit studio, une chambre d'amis supplémentaires accessibles par l'extérieur. Donc au total, on ajoute au projet une cinquantaine de mètres carrés. Et pour tout ça, on est sur un budget d'environ 100 000 euros hors taxes, tout compris. Parce qu'il y a quand même une grande surface de zinc à traiter, donc c'est un grand budget. Après, au final, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il me semble que c'est revenu encore moins cher aux propriétaires. Parce que il a fait une grande partie des travaux intérieurs lui-même. Donc, ça a permis un petit peu de baisser le coût de la facture, quoi.
On voit bien comment le dialogue avec le maître d'ouvrage a créé le projet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as traduit ces mots en un projet architectural, en un concept ?
Comme on le disait auparavant, tous les échanges, ils nourrissent un petit peu les éléments fondateurs qui vont ensuite faire le projet. Il fait partie de de tout un tas, un satellite d'informations qu'on doit ensuite synthétiser. Et notre métier, c'est vraiment de synthétiser toutes ces contraintes, qu'ils soient les attentes de la maîtrise d'ouvrage, le site, le contexte, pour en faire un projet. Et ce que j'aime en particulier sur ce projet, c'est qu'au final, on peut difficilement faire plus simple en termes d'idées, en termes de concepts. C'est vraiment juste une toiture qu'on surélève sur l'ensemble de la partie nord du projet. Donc, c'est vraiment basique au niveau du concept. Et après, bien sûr, ben, tout le travail, il est dans le développement du détail, aller chercher les vues, faire fonctionner le tout, voilà, dessiner avec soin, avec finesse, l'ensemble des éléments. Mais le postulat de départ, il est vraiment très basique. Et c'est ça que j'aime, quoi. On est proche de l'évidence, quoi, dans ce qu'on cherche. Donc, on cherche à surélever. Et puis après, ben, le projet se développe, se déroule. On a une grande fenêtre bandeau qui est sur toute la partie nord, sur toute la longueur de la maison, donc sur plus de 8 mètres, quasiment 9 mètres de long, et qui va s'ouvrir sur le paysage, sur la forêt hein, qui est en arrière-plan. Donc, ça donne des vues qui sont assez agréables, assez sympas. Et c'est aussi ce qui donne un peu la puissance au projet, quoi. C'est sa simplicité. Et après, il y a quelques petits éléments supplémentaires, comme l'escalier en métal qui est sur le côté, qui donne accès au petit studio chambre d'amis. Voilà, là, j'ai vraiment voulu qu'il soit le plus discret possible, le plus léger, et qui soit presque comme un élément qui vole et qui soit le moins prégnant dans les masses générales, quoi.
Peux-tu nous expliquer comment le projet a modifié l'organisation interne des espaces? Tu nous parles notamment d'un studio?
Oui. Tout à fait. Alors, sur l'organisation des éléments existants, les pièces de vie, les chambres, etc., il y a très peu de modifications, quasiment pas en fait, parce que les propriétaires ont continué de vivre dedans tel quel. C'est qu'on a rajouté donc des espaces grâce à cette surélévation et on a créé cet espace en plus avec l'espace sport multimédia et effectivement l'autre partie qui est la partie studio. Donc, au final, dans la vie courante des propriétaires, ça ne bouleverse pas les espaces intérieurs. C'est du plus. La seule différence, c'est que, ben, au lieu de faire du sport au rez-de-chaussée avant sans avoir aucune vue, maintenant, ils vont pouvoir faire du sport avec une vue sur le paysage, sur la forêt et même sur le terrain de foot qui est derrière, que j'ai oublié d'évoquer. Et, ça peut les encourager.
OK. Peux-tu nous expliquer comment le projet est fait structurellement parlant?
Alors, structurellement, c'est assez simple, finalement. C'est comme le concept en termes d'idées. On a voulu vraiment rester à l'essence de ce qu'on pouvait faire et vraiment le plus sobre possible. En fait, on vient se poser sur la maison existante avec une charpente en bois en remplacement de l'ancienne charpente. L'avantage de la structure bois, c'est que bon, elle est très légère, elle va pas trop ajouter de poids sur les fondations existantes et elle est très rapide à poser. Donc, elle a de nombreux avantages. D'ailleurs, en phase chantier, c'était assez drôle à voir, enfin, assez impressionnant à voir parce que les compagnons sont venus un matin et en une journée, la quasi-totalité de la structure était posée et on voyait déjà se dessiner la forme du futur projet. Et donc, pour la maîtrise d'ouvrage, c'était aussi assez impressionnant à voir. En une journée, leur maison se transformait complètement. Donc, c'est vraiment un souci de simplicité, ne pas compliquer les choses parce que l'intervention sur de l'existence est déjà assez complexe. Il y a beaucoup de détails à gérer. Et puis, rester simple, ça permet aussi de limiter les coûts. Donc, vraiment, on va se reprendre sur la structure existante de la maison. On va porter sur les façades périphériques, donc qui sont tout autour, et également sur un mur de refend, donc qui est ce qu'on appelle un mur porteur qui est au milieu de la maison. Et on va s'appuyer vraiment sur tous les éléments existants pour faire cette surélévation. Et après, au niveau des études, il y a un travail avec l'entreprise en amont pour vérifier cette structure et quelques échanges avec eux qui permettent de consolider nos hypothèses.
OK. Pourrais-tu nous parler maintenant du matériau zinc et du savoir-faire des zingueurs? Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui, alors effectivement, sur ce projet, le choix du matériau, ça a été une question vraiment essentielle. Il fallait trouver le bon matériau qui soit facilement utilisable, donc aussi bien en bardage à la verticale qu'en toiture. Donc, en fait, le zinc, il est apparu très vite comme une solution pertinente à ça, parce qu'il savait s'adapter à tout ça. Le zinc, c'est un matériau qui a beaucoup de qualités, hein. Il est étanche, il est résistant, il est noble, il est pérenne. Donc, il est utilisé vraiment depuis très longtemps, hein. On le voit sur tous les toits parisiens depuis des décennies et des siècles. Et donc, il va permettre de donner au projet cet aspect unitaire entre la verticale, le bardage et la toiture. On est sur une seule enveloppe, un seul écrin qui est comme posé sur la maison, quoi. Et donc, ce matériau, le zinc, sa teinte, on a choisi la teinte Azengar, donc qui est une teinte très claire, très mate, mais qui a quand même quelques reflets, donc qui permet en même temps une véritable intégration dans le quartier, parce qu'avec ses reflets, elle reflète l'environnement extérieur. Et puis, c'est un matériau clair, donc qui s'adapte pas mal aux teintes claires du quartier. Et sa variation de lumière, elle est assez belle. C'est assez beau à voir dans les changements de saison, même au fil de la journée, on peut voir la couleur évoluer. Donc, c'est une matière qui est vraiment vivante, en fait. Et en plus de ça, c'est un matériau qui est assez extraordinaire à travailler, même en termes de dessin, parce que dans les détails, c'est vraiment un matériau spécifique, il y a une technicité très forte qu'il faut apprivoiser, voilà, gérer les détails de rives, d'angles, il y a tout un langage autour de ça et qui est vraiment tout un monde à apprivoiser. Et pour les entreprises d'ailleurs, c'est un petit peu la même chose, il y a un vrai savoir-faire des entreprises qui travaillent le zinc. On les appelle les couturiers du ciel. C'est un terme assez poétique, mais c'est assez vrai quand on les voit évoluer sur le chantier. C'est-à-dire que ils travaillent vraiment dans le détail, dans la finesse. C'est un vrai travail d'orfèvre. Et on comprend pourquoi on les appelle comme ça quand on les voit en direct sur le chantier.
Ok, super intéressant. Côté sud de la toiture, je crois qu'il y a des panneaux solaires. Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail du concept bioclimatique général de la maison, du projet ?
Tout à fait. Alors, ce qui est assez original sur les panneaux solaires, c'est qu'ils ne font pas partie du nouveau projet. Ils étaient déjà là auparavant.
Ok, intéressant.
Et en fait, ça montre vraiment tout l'intérêt qu'avait la maîtrise d'ouvrage pour ces énergies renouvelables, le bioclimatique, dès le début. C'est qu'en fait, ils ont fait poser ces panneaux solaires, je crois, il y a plus de 10 ans. Voilà, et donc c'est des panneaux qui étaient là dans l'ancienne construction, et tout l'enjeu, toute la difficulté du projet, ça a été d'intégrer ces panneaux solaires au projet existant, avec des détails de raccord qui aillent bien, etc., avec les panneaux qui étaient déjà en place, parce que beaucoup d'entreprises, quand on a commencé à chiffrer, faire le devis, voulaient totalement démonter les panneaux solaires, puis les remonter. Donc, ce qui était quand même assez ouvrageux et qui allait prendre beaucoup de temps. Et finalement, on a sélectionné une entreprise et on a travaillé les détails avec eux pour réussir à faire un raccord, à faire bien le détail sans avoir à démonter l'ensemble des panneaux solaires. Donc aujourd'hui, les panneaux solaires s'intègrent comme s'ils avaient toujours été là, mais en fait, ils étaient vraiment là dès le début. Et après, en termes de caractéristiques bioclimatiques, on a surtout gagné effectivement en isolation, comme j'en parlais au début. Donc, en isolant toute la partie haute avec ce bardage zinc qu'on a déjà évoqué, on est sur une isolation minérale classique, mais voilà, qui permet, en isolant par l'extérieur, de limiter les ponts thermiques, donc qui sont un petit peu les points faibles du projet, les trous dans la raquette. Là, on crée vraiment une enveloppe totale, donc qui va permettre de gagner en efficacité. Donc, on est un peu plus isolé en toiture qu'en bardage. On est sur un R de 8, pour ceux qui connaîtront, en toiture, et un R plutôt de 4 sur les murs. Donc, là, on est vraiment sur une enveloppe qui est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, les propriétaires l'ont senti dès le premier hiver sur leur note de chauffage. Ça a permis vraiment de baisser leurs dépenses, quoi.
OK. Combien de temps s'est déroulé entre la première rencontre avec le maître d'ouvrage et le dépôt de la déclaration préalable de travaux?
Alors effectivement, oui, c'était une déclaration préalable et pas un permis de construire, parce qu'on était sur un projet de plus faible envergure, en dessous de 40 mètres carrés de surface ajoutée. Alors, sur ce projet-là, il n'y a pas eu énormément de temps, parce qu'on était sur un projet assez simple en termes de conception. Ça a pris beaucoup plus de temps après dans le développement des détails, du dossier de consultation des entreprises et vraiment dans le développement technique. Mais en termes de déclaration préalable, ça a pris environ 4 mois, avec 1 mois d'esquisse, 2 mois d'avant-projet et 1 mois environ pour le dépôt de la déclaration préalable. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai l'habitude et j'aime bien expliquer à la maîtrise d'ouvrage quand ça les intéresse. C'est comment va se développer et se dérouler un petit peu le projet, parce que voilà, tout le monde sait un petit peu ce que fait un architecte. Il dessine un projet, mais finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas trop combien de temps tout cela prend, comment ça se déroule. Donc, moi, c'est quelque chose auquel j'attache pas mal d'importance, d'expliquer comment ça se subdivise. Donc, j'explique souvent en 2 grandes phases, la phase conception, puis la phase chantier. Et dans la phase conception, ça se subdivise encore en 3 phases, avec d'abord l'esquisse, qui vont être les premières intentions, le premier jet, qui va durer 1 mois ici, mais qui peut durer quelques mois. Donc, vraiment, on va jeter les premières idées, peut-être faire plusieurs hypothèses. Ensuite, on va passer à l'avant-projet, où on développe un petit peu plus et où le projet va prendre un petit peu plus en détail. On va rentrer un petit peu dans la structure, dans les réseaux, les épaisseurs. Et ensuite, on aboutit à la déclaration préalable ou au permis de construire, qui est le dépôt à la mairie. Donc là, on était sur 4 mois, mais ça peut prendre 5 mois ou 6 mois selon les projets.
Ok. Et est-ce que l'autorisation de la mairie a été simple à obtenir ?
Alors oui et non. Au final, ça a été assez simple parce que les dossiers de déclaration préalable sont plus simples que les permis de construire. Et puis, en tant qu'architecte, c'est des dossiers qu'on a l'habitude de traiter. Hein. Ce n'est pas des projets de grande envergure, donc il n'y a pas de difficulté majeure. Mais on a eu effectivement un premier refus de la mairie à cause de la couleur, parce que on était parti à la base sur un zinc qui était anthracite, qui était beaucoup plus sombre, presque noir, et ça a été refusé par la mairie. Alors, on savait qu'on prenait un petit peu un risque parce que la mairie était plus réticente sur les teintes sombres. Mais bon, en accord avec la maîtrise d'ouvrage, on a quand même essayé de proposer cette teinte plus sombre. Et voilà, ça a été refusé. Mais finalement, on a refait le dossier très rapidement parce qu'il suffisait juste de changer la couleur. Et au final, on a choisi cette teinte Azengar qui est plus claire, mais qui finalement, je trouve, est aussi bien et très bien parce qu'elle permet une meilleure intégration peut-être du projet dans son environnement.
D'accord. Pendant le chantier, comment se sont organisés les habitants ?
Alors, pendant le temps des travaux, comme je le disais tout à l'heure, ça a duré environ 6 mois, hein, en comptant les vacances de Noël. Ça a dû commencer en septembre-octobre et ça s'est terminé fin février, début mars. Donc, des chantiers rapides, mais c'est assez classique pour ce type de projet. Et d'ailleurs, on peut, je pense, saluer le travail des zingueurs qui ont travaillé à cette période parce qu'on était en plein hiver. Ils ont travaillé vraiment pendant une période qui n'était pas facile. Je crois que c'était l'hiver 2019 et il y a eu beaucoup de pluie à ce moment-là. Donc, ils ont travaillé face aux éléments. Donc, on peut les saluer là-dessus. Mais finalement, ils ont réussi à faire le projet dans les temps. Et les habitants, ils sont organisés avec tous les aléas que sont à chantier, c'est-à-dire avec des échafaudages, un petit peu de bruit. Mais sur leur vie quotidienne, ça n'a pas tellement changé parce que les espaces de la maison tels qu'ils étaient n'ont pas été bouleversés. Donc, ils ont pu continuer à dormir, manger dans les mêmes espaces. Et ça a juste été les espaces qui ont été surélevés et qui se sont rajoutés. Donc, ça ne les a pas impactés tant que ça, finalement, à part les échafaudages et tout ce qu'implique un chantier au quotidien. Mais ça, ils étaient assez au courant de ce qu'impliquait un chantier.
Et quelles ont été les réactions de la maîtrise d'ouvrage en voyant le chantier se dérouler ? Tu disais, par exemple, tout à l'heure, qu'ils ont été très surpris qu'en une journée, une fois que la charpente a été posée, la maison a été métamorphosée.
C'est ça. Ben oui, ils étaient assez surpris, je pense, pendant le chantier, effectivement, dès la pose de la charpente, où ils ont vu leur maison totalement changer d'aspect. Donc, ils ont vu avec quelle rapidité ça se faisait et ils ont été assez, assez impressionnés. Et par le résultat final aussi, je pense, ils me l'ont dit, parce que c'était assez fidèle, finalement, aux perspectives 3D, aux images que je leur avais présentées au cours des études. Ça, c'est vraiment un point d'honneur pour moi, quelque chose qui est très important et auquel je m'attache, que les choses que je dessine pendant les études, dans la concrétisation et le résultat du final du chantier, on soit vraiment au plus proche et que ça y ressemble. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris, ça, avec l'expérience, avec mes différentes expériences dans des agences, voilà, de travailler pendant les études en dessinant des choses que l'on saura construire par la suite. Donc, c'est vraiment un travail dans le détail. Et ensuite, en chantier, de savoir garder le cap pendant toute la durée des travaux, de rectifier le tir parfois quand ça part un petit peu dans une autre direction. Voilà, c'est vraiment d'avoir une attention permanente et particulière sur le projet pour avoir un résultat final qui est à la hauteur de ce qu'on avait prévu aux études. Donc là, je pense que le pari est assez réussi puisque la maîtrise d'ouvrage avait l'air assez satisfaite.
As-tu certaines anecdotes, qu'elles soient négatives ou positives, hein, à nous raconter sur le chantier ?
Oui, alors il y en a toujours plusieurs sur un chantier parce qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Mais ce que je retiens surtout, c'est vraiment la relation de confiance déjà avec le client, avec l'entreprise, mais aussi la relation qu'il a pu se créer entre l'entreprise et le client, qui était assez assez sympa à voir, je dois dire. Et je me souviens encore du maître d'ouvrage qui allait parfois servir le café aux ouvriers le matin en leur apportant aussi de la brioche l'après-midi quand il était là. Donc, il y avait une vraie vie et un vrai échange qui s'est créé entre eux. Et puis, quand on voit ça, en fait, on se dit, c'est déjà un petit peu gagné. Le projet, il a déjà pris. Donc, ça permet d'avoir vraiment jusqu'au bout un projet qui va bien se finir, quoi. Et puis après, il y en a d'autres comme des appels téléphoniques en direct avec un compagnon qui est en train de poser les feuilles de zinc et qui m'appelle en direct pour régler un imprévu et qui me dit « Alors, je fais plutôt comme ça ou comme ça ?» Et donc, moi, au téléphone directement, je lui répondais. Et voilà, c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit « Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'appeler. » Et au final, c'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, il y en a toujours. Et puis, il y a aussi toujours des petites frayeurs parfois, comme à un moment, la structure du bardage qui avait été posée à une distance différente de ce qui était prévu au début. Donc, ça conditionnait un petit peu tout le reste. Ça aurait pu poser des problèmes. Mais après, en tant qu'architecte, on est aussi là pour ça, pour rectifier le tir. Et donc, là, on a rectifié le tir à temps et on a pu reposer à la bonne distance.
Quel bilan fais-tu de ce projet d'un point de vue professionnel et personnel ? Qu'est-ce que tu y as appris ?
Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est le travail du zinc qui m'a beaucoup appris sur la finesse des détails, etc. C'est vraiment toute une culture auquel je me suis acclimaté en potassant les différents ouvrages de référence qui existent, en regardant les détails de construction traditionnelle, classique, mais en essayant aussi de les réinterpréter de manière contemporaine. Et je pense que c'est ça aussi qui a intéressé l'entreprise avec laquelle on a travaillé sur le chantier, c'est qu'il y a eu ce véritable apport de connaissances mutuelles, dans le sens où, grâce à l'entreprise, j'ai pu apprendre certains détails, leur façon de faire. Ils m'ont expliqué, montré comment eux, ils faisaient. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup et me sert pour mes projets par la suite. Mais aussi, eux, je pense qu'ils ont pu aller dans des directions et dans des choses dans lesquelles ils n'avaient pas encore été, avec des projets de ce type qui sont assez contemporains, qui permettent aussi de réinventer et réinterpréter certains détails traditionnels.
Ok, merci beaucoup Théo de nous avoir présenté ce super projet de surélévation, la maison FV à La Roche-sur-Yon. Pour terminer, j'aimerais bien te poser quelques questions un peu plus larges qui peuvent intéresser aussi tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'ils soient architectes ou non. Dans un premier temps, quel est ton architecte favori ?
Ah, c'est une question un petit peu difficile parce que, pour moi, je n'ai pas un architecte favori. J'ai des grands courants que j'aime bien, dont je peux peut-être te parler. J'aime beaucoup dans un premier temps moi l'architecture japonaise. Ce que je trouve très beau dans leur façon de faire, c'est vraiment un rapport à l'espace qui est totalement différent de notre rapport occidental. Et on construit vraiment autour du vide et on construit tout dans la légèreté, la finesse, les impressions que les bâtiments sont parfois en lévitation. Il y a une recherche de pureté qui m'intéresse beaucoup dans dans ce que font les Japonais. Donc, on peut citer parmi eux, par exemple, l'agence Sana, Sejima et Nishizawa, qui ont fait, par exemple, le Rolex Center à Lausanne, le Louvre-Lens en France, que je peux vous conseiller d'aller voir, qui est un musée assez beau. Après, il y a aussi tout ce qui est Su Fujimoto, Ishigami, qui est plus un poète qu'un architecte presque. Donc, il y a beaucoup de références chez les Japonais que j'aime beaucoup dans cette simplicité. Et après, il y a aussi dans l'architecture suisse, allemande, autrichienne, quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui va un petit peu dans le même sens. C'est une recherche de rationalité, de simplicité, mais d'une autre manière, on va dire. Un petit peu plus à l'européenne, avec une tradition où la matière est très présente et palpable. On construit plus dans la masse, dans l'épaisseur, mais en gardant toute cette simplicité, cette sobriété. Donc là, par exemple, il y a le travail de Herzog et de Meuron, les architectes suisses qui ont fait récemment la Philharmonie de Hambourg. Mais j'aime aussi, par exemple, beaucoup le travail du Suisse Christian Kérez, qui est un maître vraiment de la structure. De la structure, il tire tout le dessin de son bâtiment, toute l'essence de son bâtiment, et c'est ça qui va faire son projet. Donc c'est assez beau. Donc voilà, les Japonais, les Suisses. Dans l'histoire, Mies van der Rohe, par exemple, qui m'a beaucoup touché avec Less is More. Il y a beaucoup de références, en fait. On s'inspire de beaucoup de choses, mais pour moi, il y a ce fil de construire de manière simple, efficace, avec une économie de moyens. Et en France, on n'a pas à rougir de nos architectes non plus. On a de très beaux architectes. J'en ai évoqué quelques-uns, comme Rudy Ricciotti, Philippe Madec. Il y a aussi Dominique Perrault, qui fait des projets très, très beaux, très radicaux, très justes. Entre la Bibliothèque nationale de France à Paris, le Musée des femmes de Séoul en Corée. Donc voilà, il fait une architecture qui n'est pas dans la concession, qui souvent donne des claques architecturales. Soit on adore, soit on déteste, mais ça crée forcément une émotion. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez cet architecte. Donc voilà, il y en a beaucoup.
Ok, merci. Deuxième question. Quel bâtiment recommandes-tu d'aller visiter?
C'est vrai que c'est encore difficile de choisir. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup qui m'ont procuré des émotions assez fortes. Mais s'il faut en choisir un, peut-être le dernier, ma dernière claque, c'était à Helsinki, en Finlande, où je suis tombé sur une toute petite église luthérienne que je ne connaissais pas du tout, ni l'architecte, ni l'église. Alors, je crois qu'elle s'appelle l'église de Temple-Jokio, si je le prononce bien, et des frères architectes Suomalainen. C'est une église qui date des années 1969, et si vous passez à Helsinki, je vous conseille d'aller la voir, même de la regarder sur Internet. Et encore une fois, on est vraiment sur la simplicité à l'extrême, c'est vraiment ce que je préfère. De l'extérieur, elle est presque invisible, on voit comme un dôme de cuivre qui est encastré dans de la roche. Donc, d'extérieur, c'est vraiment très peu impactant. Et quand on rentre à l'intérieur, on est vraiment ébloui par cette lumière qui est créée, cette roche qui est naturelle qui nous entoure et ce dôme en cuivre en suspension qui est relié par une verrière. Ça a vraiment un aspect assez beau et une lumière assez forte. Donc, qu'on soit croyant ou pas, ça procure des émotions.
Oui, je la connais aussi, je crois, cette église. C'est vrai qu'elle est incroyable. Le plafond, je crois que c'est un fil de cuivre de plusieurs mètres et peut-être même kilomètres enroulé en spirale. C'est vraiment très, très impressionnant. Oui. La coupole a une portée de 30 ou 40 mètres peut-être. Incroyable.
Ouais. C'est assez impressionnant.
Dernière question, quel conseil donnerais-tu au Théo d'il y a quelques années lorsque tu as lancé ton agence? Ou en tout cas, quand tu en avais l'intention?
Je ne sais pas si je saurais me donner des conseils, mais oui, le conseil, c'est de foncer, c'est d'y aller. Et quand on a des idées, de mettre les choses en place pour qu'elles se réalisent. De persévérer aussi, parce que parfois, ça demande un travail qui est sur la longueur, sur le long terme, et on n'arrive pas tout de suite à ce à quoi on voudrait arriver. Donc, c'est vraiment en persévérant, en travaillant d'arrache-pied qu'on arrive à créer les projets qu'on aime, à s'améliorer sans cesse Et puis un conseil que je me donnerais, c'est aussi toujours rester curieux, toujours rester à l'écoute et ouvert à ce qui peut se passer, aux références, pour sans cesse essayer de s'améliorer, quoi.
Ouais, super. Écoute, Théo, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'un projet Un Architecte et d'être venu partager avec nous ton expérience. C'était très enrichissant d'échanger avec toi et de découvrir ton atelier OSE, basé à La Roche-sur-Yon et à Paris, et ce remarquable projet de surélévation qu'est la maison FV. Merci encore.
Ben merci, c'était un plaisir partagé. Merci, à bientôt.
J'espère que l'interview de Théo Vivien vous a plu. Si vous voulez découvrir le projet Maison FV en images et d'autres réalisations de Théo, vous pouvez vous connecter sur sa page de profil sur le site www.unprojetunarchitecte.com. Vous y trouverez également son adresse email. Et si vous avez un projet de construction, extension, surélévation ou rénovation, vous pourrez le contacter gratuitement et sans engagement. Le lien figurera dans la description du podcast. À bientôt pour un prochain épisode d'Un projet, un architecte.